La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Info RC. Et merci à tous de suivre les programmes de notre radio associative en milieu scolaire. Nous allons écouter un podcast réalisé par des élèves de seconde 2 du lycée Marcel Gimond. Ce projet est né d'un travail autour des migrations. En géographie, les élèves ont étudié les différents acteurs, les causes et les enjeux des migrations, tout en développant des compétences psychosociales telles que l'écoute, l'empathie ou encore l'expression des émotions. En français, ils ont découvert le film Flee, lu des textes consacrés à l'exil, puis participé à un atelier d'écriture pour imaginer et raconter le parcours singulier d'une personne en migration. Après plusieurs heures d'écriture, ils ont prêté leur voix à ces récits avant de réaliser eux-mêmes le montage sonore. Je vous invite à découvrir l'histoire de Gina, écrite et racontée par Lilou et Amy.
Vas-y, tu peux te présenter.
Alors, je m'appelle Gina, j'ai 19 ans et voilà 2 ans que j'ai fui mon pays. Je suis née à Kaboul le 12 juin 2006 dans un Afghanistan paisible. Sans taliban. Je vivais seulement avec mes parents, puisque ma grande sœur nous avait quittés pour se marier en France quelques années avant ma naissance. Je n'ai eu que très peu de contact avec elle durant mon enfance, car ayant obtenu la nationalité française, cela a été vu comme une trahison aux yeux de ma famille, très attachée à ses origines afghanes. C'est compliqué pour moi de parler de cette période de ma vie. J'ai l'impression que l'innocence que j'avais a disparu à jamais.
Il n'y a pas de souci, prends le temps qu'il te faut.
D'accord, merci. Mais il faudra bien que j'en parle un jour ou l'autre.
Commence le récit là où tout a commencé.
C'est un soir comme un autre. Un jeudi soir même. Mon père et moi jouions un jeu. Le carom, je crois. Mais quelque chose semblait le tracasser.
Baba, pourquoi ne cesses-tu pas de regarder par la fenêtre ? C'est à ton tour de jouer. C'est drôle, en ce moment il est de plus en plus distrait. Pourtant, rien n'a changé. Même si tout le monde est tendu depuis l'arrivée des talibans il y a 2 ans. Et tout à coup, un bruit de voiture qui dérape dans l'allée. Des voix graves et des cris, c'est eux. Baba se précipite vers moi. Maman sort de la cuisine, elle me prend la main. Et tout deux m'entraînent dans le couloir. Baba écarte le tapis, une trappe apparaît. Il l'ouvre tandis que les bruits de pas s'intensifient. On descend les escaliers, dans le noir, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Baba ordonne.
Quoi qu'il arrive, ne faites aucun bruit, ne criez pas et ne bougez surtout pas d'ici avant que je revienne. Compris ?
Avant même de pouvoir répondre, on entend la porte d'entrée se fracasser et Baba remonter. Des cris, des bruits étouffés et des pas se font entendre au-dessus de nos têtes. J'essaye de retenir mes sanglots, mais l'angoisse est si forte, je ne peux pas contrôler les larmes qui coulent le long de mes joues. S'il me trouve, je suis morte. Des cris, de plus en plus de cris, une détonation. Le bruit d'un objet lourd tombant sur le sol, puis plus rien. Le silence. Je n'entends plus que la respiration de maman à côté de moi. Je la sens se lever et m'entraîner dehors. Et Baba, il avait dit qu'il reviendrait. Les événements s'enchaînent, dans le flou le plus total. Je ne suis plus moi-même, comme déconnectée de mon corps. Je vois maman prendre des affaires, mais elle n'est plus que forme et couleur se mouvant devant mes yeux, maintenant sec. C'est quand elle me sort dehors et qu'elle prononce le nom d'Asgard, mon oncle, que je réalise que nous sommes en train de fuir à tout jamais la maison. Ma maison. Ce lieu qui m'est arraché sans raison, où j'ai grandi, joué et aimé. Je sens comme un étau comprimer ma poitrine. Un sentiment que je connais bien, mais que je n'ai jamais réussi à identifier jusqu'à maintenant. L'injustice. Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Arrivée chez Asgard, maman s'effondre dans ses bras. Elle lui explique quelque chose, il répond, mais je n'entends rien, comme dans un état second. Nous restons 3 jours, au cours desquels j'apprends que maman voudrait qu'on rejoigne ma sœur, Anna, en France. Mon oncle dit qu'il connaît quelqu'un, pouvant nous emmener en Turquie. Il faudrait se rendre à Peshawar, au Pakistan. Et pour ça, il faut marcher. Et passer par les égouts pour ne pas se faire voir. Asghar glisse dans la poche de maman une liasse de billets. Nous étreint, nous partons. Le plus vite possible. Après 4 jours de marche, nous arrivons enfin à l'adresse indiquée. Mes vêtements sont sales. La sueur me colle à la peau. J'ai mal aux pieds tant le chemin était long. Et l'odeur des égouts empruntés pour quitter Kaboul embaume encore nos narines. Maman toque 2 coups francs, suivis de 3 coulons. C'est le signal, comme l'a indiqué Asghar. Un homme nous ouvre, il est grand, le regard méchant et bordé d'une cicatrice. Il parle notre langue et nous demande de le suivre. Dans le salon se trouve une jeune femme, avec ses 2 enfants en bas âge. Je comprends immédiatement qu'ils cherchent à fuir, eux aussi. Le passeur explique son plan. Nous le suivons jusqu'à Karachi, une ville portuaire, où nous prendrons un bateau avant d'arriver à Bandar Abbas. Là-bas, nous devrons rejoindre un berger qui nous conduira en Turquie.
« Le reste sera de votre ressort »,
affirme-t-il avec fermeté. En attendant la date du départ, qui aura lieu dans 2 jours, l'homme nous installe dans un hangar miteux, avec quelques bouteilles d'eau et quelques conserves. Le temps s'écoule lentement. Voilà 5 jours que nous marchons, inlassablement. Personne ne parle, excepté les enfants d'Aïcha, la jeune femme, qui, de temps en temps, pleurent leurs chaussures trouées. Combien de temps devons-nous encore marcher? J'ose enfin demander au passeur qui m'intimide tant.
7 jours,
répond-il, sèchement, sans même me regarder. Je sens comme mes jambes lâchées. Je m'immobilise. 7 jours. Comment pourrais-je tenir encore 7 jours à marcher, alors que je ne sens même plus mes pieds meurtris et que la fatigue me martèle le crâne? Chaque nuit, nous dormons dans de vieux draps, à même le sol revêche de la montagne. Le repos y est impossible. Je me dis que chaque nuit pourrait être la dernière. J'allaite et me tiens à maman. Elle me regarde de ses yeux réconfortants et me dit à voix basse.
Tiens bon, Azizam, pense à la France. Pense au lit que tu trouveras et à la nourriture abondante. Après tout, 7 jours, ce n'est pas si long.
C'est drôle, comme ces mots semblent sincères et distants. Comme si ce périple ne l'atteignait pas. Alors que la nuit, les bruits de ses sanglots me réveillent. On marche encore, encore et encore. Les jours se ressemblent et s'accumulent. Enfin, au loin, on aperçoit la mer et une ville. J'aurais presque envie de pleurer. On se dirige vers le port et je me dis qu'une fois sur le bateau, on pourra se reposer et se nourrir un minimum. Mes espoirs s'évanouissent immédiatement lorsque je vois le porte-conteneur vers lequel se dirige le passeur. Mais il n'y a pas de cabine dans le porte-conteneur. Le passeur nous toise d'un air mauvais.
Montez et cachez-vous dans le conteneur rose,
nous ordonne-t-il. Je ne sais pas ce que j'avais espéré, mais mon cœur se serre tant. Je me dis que la situation est inhumaine. Bien sûr, je savais de connaissance que fuir son pays ne se faisait pas dans le luxe, que des morts, des blessures arrivaient, mais le vivre, c'est impensable.
Le voyage durera environ 14 heures. À votre arrivée, un homme portant une casquette bleue sera dans les parages. Tâchez de le suivre.
Il nous lâche un dernier regard, puis...
Bonne chance.
Il part aussitôt. Pour lui, nos visages disparaîtront directement après une nouvelle fournée de réfugiés récupérés. Mais pour moi, le sien restera imprimé dans ma mémoire, à vie. Une fois dans le conteneur vide, le noir envahit mes yeux. La température y est étouffante, et je crains qu'il n'y ait pas assez d'oxygène. Je m'installe sur le sol avec maman, ferme les yeux et m'endors. Durant ces 14 heures, je n'ai fait que dormir. Ou presque, puisque je me lève 2 fois pour aller vomir, à même le sol. Dans un coin que j'ai trouvé à tâtons. L'odeur est infâme, mais rien ne peut empêcher mon mal de mer. Une fois au port, nous sortons discrètement, tout engourdis et nauséeuses. En effet, un homme à casquette bleue est appuyé contre un panneau, dans un endroit calme. Est-ce le berger? Où va-t-il nous conduire, à lui? En nous rapprochant, je constate qu'il sourit, d'un air mal à l'aise. Tout de suite, j'ai honte de mes vêtements, de ma crasse, de ma situation. Il parle le persan, ce qui facilite nos échanges. Il nous emmène, plus loin, sur une sorte de parking, où est garé un 4x4. Nous montons, sans poser de questions. Plus tard, nous arrivons dans une sorte de ferme, où le berger, puisque c'est bel et bien lui, nous conseille de nous laver dans le lac. Je ne refuse pas et je prie le ciel quand je sens mon corps toucher l'eau. Il nous nourrit également. Je ne sais pas pourquoi cet homme cherche tant à nous aider, mais il est en train de nous sauver la vie, littéralement. Il nous dit que dans 2 heures, nous prendrons la route pour la transhumance des moutons. Passant par les montagnes d'Iran, afin d'arriver dans une gare en Turquie. Chaque soir, il y aura des bergeries d'étape afin de se reposer et de s'alimenter. 5 jours sera la durée du voyage. Les conditions ont l'air plus vivables et je me surprends à regagner de l'espoir. 2 jours de voyage déjà. Et il s'avère que Rima, le berger, est comme une lumière dans l'obscurité. Au milieu des bêlements, je cours, je m'occupe des moutons et j'y prends goût. Bien sûr, la route est longue, compliquée et nous dormons dans le foin. Mais chaque soir, pouvoir manger du pain et du fromage m'emplit de joie. J'apprends que Rima a vécu en Afghanistan, que là-bas il a été amoureux, mais que tout s'est mal fini. Aujourd'hui, sa seule volonté est d'aider le plus de monde possible. Maman a les traits de plus en plus tirés. Elle parle peu, alors qu'elle a toujours été une personne débonnaire et joviale. Assise dans le train, à Tadvan, je repense à ces derniers jours. Heureuse, malgré la situation, on a dû dire au revoir à Rima quand il nous a mis dans le train. Maintenant, nous n'avons plus personne pour nous guider. Mon incertitude refait surface, ainsi que mes angoisses. C'est bon, nous sommes arrivés à Istanbul. Dans la gare, il y a beaucoup de monde. Je me sens oppressée, je me colle à maman, le plus possible. Le plan, rester 1 an ici, travailler illégalement, trouver un moyen d'obtenir un faux passeport et économiser suffisamment pour avoir un aller simple pour l'Italie avant de rejoindre la France. En revanche, nous ne savons pas comment nous loger. Avec le peu d'argent qu'il nous reste, nous ne pouvons pas aller à l'hôtel. Maman décide donc d'acheter une tente avant de rejoindre une diaspora afghane dans un parc de la ville. Quelques soirs plus tard, un jeune Afghan nous interpelle, maman et moi. Voyant que nous sommes un peu perdus et sans moyens, il nous explique qu'il a une connaissance cherchant de la main-d'œuvre peu coûteuse pour l'aider dans son épicerie. Nous commencerons demain. Lendemain matin, les portes s'ouvrent sur un vieil homme rabougri et son petit magasin poussiéreux. Les étagères sont pleines de toiles d'araignée et l'odeur du renfermé est frappante. Le magasin a vraiment besoin de nous. Au début, le vieil homme est froid et peu bavard. Seulement quelques indications sur le travail à effectuer. Mais après plusieurs semaines, en voyant que maman et moi nous tuons à la tâche, il se met à s'ouvrir un peu plus. Maintenant, il essaye même de nous poser des questions avec le peu de mots persans qu'il connaît.
Où vous dormir ?
Dans une tente au sein d'une diaspora au sud. Je mime mes mots. Il semble surpris, se tourne vers le cellier et me demande de le suivre. Quand il ouvre la porte, il m'indique le sol avec un sourire. Et mon regard se pose sur des tapis de sol. Il ouvre les portes des toilettes et montre aussi le robinet. Il nous propose de dormir ici. En effet, le soir même, c'est tout le camp afghan qui nous voit pacter nos maigres affaires, afin de quitter cet endroit le lendemain matin. Au bout d'un an, à travailler d'arrache-pied, à faire des recherches, nous trouvons un passeur qui, avec l'argent gagné, me fera un passeport. Me fera un passeport à moi. Seulement, puisque nous n'avons pas réussi à réunir suffisamment d'argent pour partir toutes les deux en avion. Maman, elle, partira en bateau. C'est moins sûr, mais elle refuse que ce soit moi qui prenne le risque de revivre une traversée comme celle que nous avons vécue au Pakistan. La culpabilité me ronge. Et si quelque chose lui arrivait ? Le faux passeport dans la main, je fais un dernier signe à maman avant de rentrer dans l'aéroport. Je m'avance vers un portique de sécurité, le cœur battant. Rien. Je continue d'avancer. Une femme m'interpelle. Je panique. Ça y est, on m'a trouvé. Dans une autre langue, elle désigne mon passeport du doigt. Je lui montre, en priant pour ne pas paraître suspecte. Elle m'observe attentivement pendant de longues secondes, puis me dit de continuer à avancer. Le soulagement est tel qu'il me faut quelques minutes pour me calmer et recomposer un visage impartial. J'attends dans le grand hall le temps qu'on me dise d'embarquer. Toujours stressée à l'idée qu'on puisse découvrir mon identité et qu'on me ramène dans mon terrible pays. Le bruit de l'horloge centrale résonne dans mon crâne. Quand enfin, je vois à l'agitation que c'est le moment. Enfin, je monte dans cet énorme engin de ferraille qui, grâce à ses ailes, je l'espère, me conduira à ma liberté et je prie pour un avenir meilleur. Dans l'avion, je me mets à pleurer. pleurer pour ma mère, pleurer pour ces femmes discriminées et injurées, pour toutes ces vies prises en voulant fuir et tous ceux qui sont morts mais qui continuent à respirer. Ça y est, je suis en Europe. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que j'attends maman. C'est normal, elle embarquait 2 jours après moi, et le voyage durait 15 jours. Je reste donc sous un arbre, à l'ombre, près de la plage de Setaco di Curto, à manger avec ce qu'il me reste dessous. Je patiente. C'est une journée comme les autres, excepté la présence de 2 personnes en uniforme, assises dans le sable. Cela fait bien 20 minutes qu'ils sont là. Mais que font-ils? Surtout, qui sont-ils? Je somnole presque. Quand tout d'un coup, j'aperçois à l'horizon un bateau pneumatique rempli de monde. C'est peut-être maman. Les 2 individus en uniforme se lèvent eux aussi. Et je les trouve bien étranges. Puis je réalise. Ce sont des agents de garde frontière. Oh non! Oh non, non, non! Ils vont arrêter les migrants. Et maman avec! C'est ça qu'ils font. Ils empêchent les flux illégaux. Comme si nous n'étions pas tous terriens. L'air se bloque dans mes poumons, tandis que je me rends compte de l'impuissance dans laquelle je suis. Je ne peux pas crier. Ils ne doivent pas m'entendre. Mais je refuse que ces pauvres gens soient forcés de retourner chez eux. Que maman y soit ou non. Au fur et à mesure que le bateau, si on peut appeler comme ça, se rapproche, je distingue des visages. Et puis, oui, c'est elle, c'est maman. Mon cœur se serre si fort. Je ne peux rien faire. Absolument rien. Et puis, pourquoi ne change-t-il pas de cap? Ça y est, ils approchent, ils sont là. J'entends certains célébrer la fin du calvaire. N'ont-ils pas vu les agents? Ces derniers se rapprochent d'ailleurs très rapidement du bateau de fortune. J'aperçois maman et je me lève d'un bond. Je hurle sans réfléchir. Maman, vite, sauve-toi! Les gardes se retournent. Certains migrants essayent de remonter sur le bateau alors que maman tente de s'enfuir. En vain, un des hommes la rattrape. Je crie, je hurle. Elle me jette un coup d'œil, c'est Gozi.
Gina, va-t'en, maintenant!
Je ne peux pas bouger, comme paralysée. Pas maman, pas elle.
Nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Va, je te retrouverai.
Elle a menti. J'ai appris plus tard qu'on l'avait renvoyée en Afghanistan et qu'elle était morte en chemin. Après l'événement de Setaco di Curto, tout était flou. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'arrive à trouver cette cabine téléphonique au fond d'une petite ruelle. Et maintenant, la seule chose à faire pour réussir à fuir, c'est d'appeler Anna. C'est la seule sur qui je peux compter. Je glisse ma main dans ma poche, j'en sors 2 pièces. Je fais glisser la première, puis je compose son numéro. Maman m'avait obligée à la prendre par cœur. Elle m'avait dit que c'était par précaution. Mais jamais je n'aurais pu croire que je devrais l'utiliser sans elle. Je serre le téléphone contre mon oreille. J'entends un petit grésillement. Puis le téléphone sonne. 3 bips. Mon ventre se tord, je sens une larme couler le long de ma joue. Et soudain, j'entends la voix d'Anna. Enfin! Tout mon corps se relâche et je pleure. J'essaye de lui expliquer que maman a été arrêtée, que je suis seule dans cette cabine au fond d'une petite rue. Les sanglots me coupent de temps en temps. Anna reste silencieuse puis me dit
« Je vais venir te chercher, mais avant, il va falloir que tu m'attendes ici même, à côté de cette cabine, pour que je puisse te trouver. Je prends le premier train et je te promets que je serai là avant la nuit. Compris, Gina ?»
J'acquiesce, puis je raccroche. Je sèche les larmes sur mon visage avec ma manche, puis m'assois sur un petit banc. Les heures passent, le soleil est brûlant en cet après-midi. Et je repense à la scène où les gardes-côtes entraînent maman. J'aurais dû les arrêter, me jeter sur eux et dire à maman de fuir avec moi. Pourquoi je suis restée immobile? J'aurais dû réagir. Quand tout à coup, au loin, je reconnais son visage. C'est Anna, elle m'a retrouvée. Je regarde à travers la fenêtre du train. Les paysages défilent si vite. Ma sœur est assise devant moi. Je crois qu'elle dort. Elle semble calme et apaisée. Je l'envie tellement. Moi, je repense à maman et au voyage. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'ils lui ont fait et si elle va bien. Me voilà dans le petit appartement de ma sœur. Il est au dernier étage d'un immeuble, en plein centre de Paris. J'ai rencontré le mari et le fils d'Anna. Ils sont gentils. Ils font attention à moi, même si je ne parle plus à personne depuis que je suis arrivée. Tout est différent maintenant que je suis en France. Mais ce n'est pas forcément pour le mieux. C'est vrai qu'ici, je n'ai pas à avoir peur d'être arrêtée ou même tuée par les talibans. Mais la crainte qu'on me renvoie en Afghanistan maintenant que je suis ici pèse sur mes épaules. Maman me manque aussi terriblement. J'ai l'impression d'avoir perdu la seule personne qui m'aidait à supporter la vie. Tout est terne et triste. Anna dit que ça passera avec le temps, que ce n'est qu'une mauvaise phase. Néanmoins, je reste fière de m'être battue, d'avoir résisté à ce destin qu'on me réservait.
Alors voilà, aujourd'hui je suis devant vous, Madame l'agent Lofpra, pour mettre fin à cette vie d'incertitude en obtenant un droit d'asile. Cette histoire était la mienne, celle de Gina, dont le nom veut dire celle pour qui la justice a été faite. M'aiderez-vous à l'obtenir ?
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.